Chapitre 2, prophète Agé, verset 10. Le 24e jour du 9e mois, dans la seconde année de Darius, la parole de l'Éternel vint par Agé, le prophète, disant, « Ainsi dit l'Éternel des armées, interroge les sacrificateurs sur la loi, disant, « Si un homme porte de la chair sainte dans le pan de sa robe, et qu'il touche avec le pan de sa robe du pain, ou quelques mets, ou du vin, ou de l'huile, ou quoi que ce soit qu'on mange, ce qu'il a touché, sera-t-il sanctifié ?» Les sacrificateurs répondirent et dirent non. Et Agé dit, si un homme qui est impur par un corps mort touche quelqu'une de toutes ces choses, est-elle devenue impure? Les sacrificateurs répondirent et dirent, elle est impure. Et Agé répondit et dit, ainsi est ce peuple, et ainsi est cette maison devant moi, dit l'Éternel, et ainsi est toute l'œuvre de leurs mains. Et ce qu'ils présentent là est impur. Et maintenant, considérez bien, je vous prie, ce qui va arriver dès ce jour et dorénavant, avant qu'on ait mis pierre sur pierre au temple de l'Éternel, avant que ces jours fussent, si l'on venait à un tas de 20 boisseaux, il y en avait 10. Si l'on venait à la cuve pour fouiller 50 mesures, il y en avait 20. Je vous ai frappé par la brûlure, et la rouille, et la grêle, dans toute l'œuvre de vos mains, et aucun de vous n'est revenu à moi, dit l'Éternel. Considérez le bien, je vous prie, dès ce jour et dorénavant, depuis le 24e jour du 9e mois, depuis le jour où le temple de l'Éternel a été fondé, considérez le bien. La semence est-elle encore dans le grenier? Même la vigne et le figuier et le grenadier et l'olivier n'ont pas porté de fruits. Dès ce jour-ci, je bénirai. Et la parole de l'Éternel vint à Agé pour la seconde fois, le 24e jour du mois, disant, parle à Zorobabel, gouverneur de Juda, disant, j'ébranlerai les cieux et la terre. Je renverserai le trône des royaumes et je détruirai la puissance des royaumes des nations. Et je renverserai les chars et ceux qui les montent. Et les chevaux seront abattus et ceux qui les montent, chacun par l'épée de son frère. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je te prendrai, Zorobabel, fils de Shealtiel, mon serviteur, dit l'Éternel. Et je te mettrai comme un cachet, car je t'ai choisi, dit l'Éternel des armées.
Agé, redisons-le une fois encore, puisque il semble qu'il y ait ici bien des amis qui n'étaient pas là dans la journée d'hier. La prophétie d'Agé se divise en quatre oracles ou messages. Le premier et le troisième message, deux messages de répréhension. Le deuxième et le quatrième message étant des messages de grâce, s'exprimant sous forme de certitude et de promesse. Le premier message, nous le trouvons jusqu'au verset 11e du chapitre 1er. Dans ce premier message, le prophète, messager de l'Éternel, dénonce la paresse et l'égoïsme du peuple, la nonchalance et la lassitude que l'on manifeste à l'égard de la maison de Dieu qui est dévastée. Ce premier message, message de répréhension, est écouté par le peuple. Le peuple a écouté, le peuple a craint Dieu, et trois semaines plus tard, le peuple s'est mis à l'ouvrage. Il s'est relevé de son état et a travailler. Alors le deuxième message, nous l'avons au chapitre 2, jusqu'au verset 9e. Dans ce deuxième message, alors, il y a des encouragements, il y a l'assurance de la permanence ou de la pérennité des ressources de la grâce de Dieu. Nous l'avons vu, ces ressources se résument en ceci, la présence assurée de Dieu, « Voici, je suis avec vous, dit l'Éternel », parole qui est répétée, puis la parole même de Dieu, et enfin son esprit, ma parole, par laquelle j'ai fait alliance avec vous, et mon esprit demeure au milieu de vous. Et puis, les regards des fidèles sont dirigés vers un avenir glorieux qui sera marqué, qui est encore pour nous, chers amis, un avenir glorieux qui sera marqué par la venue de celui qui est appelé au verset 7, l'objet du désir de toutes les nations. C'est le Seigneur Jésus lui-même, le Messie promis, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous avons maintenant le sujet de notre lecture de cet après-midi. Troisième message, depuis le verset 10e jusqu'au verset 19e. Quel est le sujet de ce message? C'est un appel, de nouveau, comme le premier appel au début de la prophétie adressé à la conscience du peuple. Et pourquoi? Dans quel but? Si c'est l'égoïsme et, disons, la mondanité qui sont dénoncés dans le premier message, dans ce message-ci, le troisième, c'est le manque de séparation, le manque de sanctification pratique qui est dénoncé. Et l'Éternel veut montrer à son peuple, par l'entremise de son serviteur, qu'il est impossible de travailler, d'avoir une activité fructueuse en dehors d'un chemin de sanctification pratique et de séparation pour Dieu. Cela est très important. On peut avoir, d'après les deux grandes questions qui sont posées au début de notre lecture au sacrificateur, on peut avoir une apparence de piété, on peut avoir de sérieuses apparences religieuses, on peut travailler et même avec beaucoup de zèle, d'empressement et de ferveur, le résultat, qui d'abord ne sera que relatif, la même lecture nous le montre, ce résultat ne saurait être approuvé, encore moins apprécié de Dieu, tant que cette activité n'est pas accomplie à partir d'un cœur pur et dans l'unique but de la gloire du Seigneur. C'est dans un chemin de sanctification pratique et de séparation pour Dieu que véritablement un témoin du Seigneur peut travailler d'une manière utile et d'une manière fructueuse. Et enfin, nous avons le dernier message au verset 20e, les quatre derniers versets du livre. Quatrième oracle, quatrième message, qui est l'annonce, comme dans le deuxième message, de la gloire, d'une gloire future, et qui est de nouveau l'annonce de l'arrivée du Seigneur, du Messie, qui nous est représenté en type sous l'image, la figure de Zorobabel. La pensée est un petit peu plus complexe que ce que nous disons maintenant, mais nous ne faisons que débaucher le sujet. Et cette pensée répétée dans ce deuxième message, c'est-à-dire que le quatrième, cette pensée devait encourager et stimuler les les enfants d'Israël à travailler, à persévérer dans le travail de l'édification de la maison. Cette pensée d'un avenir glorieux, certain, stable et dorénavant immuable. Ainsi donc, chers amis, nous commençons notre lecture cet après-midi avec ces versets 10, 11 et 12, où le 24e jour du 9e mois, toujours dans cette même seconde année de Darius, la parole de l'Éternel vint par Agée, le prophète, et il vient interroger les sacrificateurs sur la loi. Il vient interroger les sacrificateurs, c'est-à-dire les êtres plus responsables que d'autres. N'y a-t-il pas des passages dans d'autres livres de l'Ancien Testament qui nous montrent la responsabilité à l'égard du sujet de la sanctification, qui nous montrent la responsabilité des sacrificateurs, de ceux qui sont établis en autorité au milieu du peuple? Par exemple, dans le livre du Lévitique, est-ce qu'il n'est pas dit que c'est eux qui ont à séparer ce qui est saint de ce qui n'est pas saint, ce qui est pur de ce qui est souillé? Au chapitre 10 du Lévitique, cela est écrit. Dans le dernier livre de l'Ancien Testament, le livre du prophète Malachie, est-ce qu'il n'est pas parlé des sacrificateurs, des lèvres, des sacrificateurs qui gardent les paroles de la connaissance, de la loi? C'est dire qu'ils ont donc une responsabilité particulière, et c'est à eux maintenant qu'Agée va poser ces deux questions solennelles que nous avons dans ces versets 11, 12 et suivants. Concernant cette sanctification, comment elle a été et comment elle était réalisée par eux, et ainsi par ce troisième message, l'Éternel, par le moyen du prophète, va ramener, pour ainsi dire, ses sacrificateurs, et avec les sacrificateurs le peuple, les ramener sur eux-mêmes, à rentrer en eux-mêmes, à réaliser ce que nous appelons communément le jugement de soi-même. Voilà pourquoi, chers amis, disons-le en terminant, le grand sujet de ce troisième message est le sujet de la sanctification pratique, la séparation pour Dieu et la connaissance de telle réalité morale exige, implique tout naturellement, quant à chacun de nous, ce jugement de soi-même qui ne se fait pas une fois de temps en temps, mais qui est un jugement constant de soi-même dans le sentiment de la présence de celui qui est le Dieu saint et qui a, comme dit un autre petit prophète, les yeux trop purs pour voir le mal. C'est là le désir de nos cœurs à tous, que de tels enseignements, de telles vérités nous soient profitables. C'est pas pour rien que le Seigneur nous réunit, déjà hier, nous réunit encore cet après-midi, c'est en effet de sa grande grâce, mais le désir de nos cœurs, et nous voulons penser de nos cœurs à tous, c'est que les vérités que nous allons maintenant voir ensemble, ces vérités véritablement touchent nos cœurs, touchent nos consciences, et que par l'action, seulement l'action de la parole, et l'action de l'Esprit de Dieu, nous soyons dorénavant amenés davantage à cette notion si précise et si indispensable du jugement de soi-même. Qu'il y ait ainsi donc un résultat patent de la lecture de cette portion de la parole de Dieu pour nous tous, pour l'assemblée locale, pour les différentes assemblées que nous représentons, qu'il y ait vraiment un effet durable de la lecture et de la méditation de la parole de Dieu ainsi tous ensemble.
la sanctification est un sujet vaste. Il est traité à fond dans le Nouveau Testament. Je fais d'abord une joie remarque, c'est le sacrificateur qui est en question, qui est mis à l'épreuve pour voir s'il a conservé net son jugement de sacrificateur. Nous considérons tout de suite ce que cela sous-entend. Sacrificateurs, c'était ceux qui avaient la liberté d'entrer dans le lieu saint, et pour le souverain sacrificateur, il avait des rapports avec Dieu dans le lieu très saint. Aujourd'hui, tous les croyants vrais sont sacrificateurs. Et ils ont des rapports avec Dieu sans voile aucun. Et c'est une position définitive. Il n'y a pas un noyau, un corps sacerdotal, n'est-ce pas ? Les croyants sont tous sacrificateurs. Quelqu'un qui a été converti ce matin et scellé du Saint-Esprit est un sacrificateur. Les Lévites, c'est autre chose, ce sont les services. Il y a diversité de services et il n'y a pas de différence dans les sacrificateurs. Sauf que la différence de perception spirituelle peut varier d'un sacrificateur à l'autre, ou elle varie chez le même sacrificateur suivant sa fidélité, sa marche, ça dépend de la marche. L'intelligence spirituelle pour discerner le bien et le mal. Et alors, tout de suite, nous sommes ramenés à cette vérité fondamentale pour les croyants, que les croyants ont pour mesure du bien et du mal la mesure même du sanctuaire à retenir. La qualité, le caractère de la morale chrétienne est en relation directe avec la nature de Dieu, du Dieu auquel on a affaire dans le sanctuaire. Il n'y a pas d'autre niveau dans l'Écriture. Il ne peut pas y en avoir d'autre. C'est pourquoi dans l'Hébreux 6, à la fin, il est dit, ayant les sens exercés pour discerner le bien et le mal, mais ce discernement du bien et du mal, il se développe chez un chrétien dans la mesure où ce chrétien est pieux, c'est-à-dire a des rapports avec Dieu. Et alors la conscience devient beaucoup plus délicate. On appelle mal non pas seulement ce que les autorités et la police viendront qualifier ainsi. On appelle mal tout ce qui est incompatible avec la présence de Dieu. Et tous les détails qui caractérisent le moi sont mal. C'est du mal. C'est du mal. Une bonne volonté, la meilleure intention qui vient du moi, c'est du mal. Tout ce qui n'est pas obéissance et dépendance, c'est du mal. Et dans la mesure où on ne le réalise pas, on n'a pas Dieu avec soi de la même manière. Il y a des degrés dans la réalisation de Dieu avec les croyants, des différences très grandes. Le passage de Jean, peut-être en dirons-nous un. C'est un passage très remarquable, au début de Jean, il y a pas mal de choses qui ne sont peut-être pas toujours très faciles. Mais en tout cas, elles sont très élevées et très profondes. Parce que dans Jean, justement, il s'agit des natures. Par conséquent, dans la maison de Dieu, les jugements qui ont une valeur dans la maison de Dieu, ce sont ceux donnés par les sacrificateurs et sacrificateurs fidèles. Ceux qui n'ont pas été grisés par la boisson forte, quelle qu'elle soit. cela peut être simplement la chair, l'orgueil, la vanité, ou bien l'influence du monde. Mais un sacrificateur est un sacrificateur pour toujours. Alors, maintenant un mot sur la sanctification. Cela pourrait remplir plusieurs régions. Ne confondons pas sanctification et justification. On les confond souvent. La justification, c'est ce par quoi tous mes comptes avec Dieu sont réglés. Par Dieu, je suis justifié. Je suis injuste, mais je suis justifié par Dieu, maintenant, par la foi au Saint-Esprit. On n'est pas justifié plusieurs fois dans sa vie. On est aussi, si vous voulez, sanctifié une seule fois, mais il y a progrès dans la réalisation d'une sanctification qui doit se rapprocher pratiquement de la sanctification parfaite représentée par la gloire et la nature de Dieu. Je me rappelle avoir lu sous la plume d'un toujours des mêmes frères qui ne s'amusaient pas avec des mots dans l'écriture, mais avaient remué l'écriture de fond en comble par la grâce du Saint-Esprit pour extraire du fond de cette mine la pensée divine. Il disait donc: il n'y a pas d'autre sainteté que la nature divine. Pas d'autre. Or, le chrétien l'a, la nature divine. Sa sainteté consiste à manifester cette nature et pas une autre. Et que l'on ne vienne pas ergoter et nous dire que cela n'est pas possible. Voilà ce qui est offert. Dieu n'a pas d'autre mesure. Il ne peut pas s'abaisser à nous. Et cela peut se réaliser, tandis que nous sommes dans ces corps mortels, dans le ciel, cela se réalisera sans vigilance. Ne confondons pas sanctification et justification. La sanctification est en rapport avec le péché comme étant une chose laide, moralement affreuse, pour Dieu et pour le croyant, et même pour l'homme. L'homme ne peut pas se voir. Il ne pourrait pas se voir développé tel qu'il est en réalité. C'est insupportable. Adam et Ève se sont cachés. Et là, ce n'était pas tant leur culpabilité que la découverte du mal. Ils ne connaissaient pas avant la perte de l'état d'innocence, lequel ne sera jamais retrouvé. Dieu nous donne mieux. Le péché est une souillure. Il est évidemment beaucoup plus facile de laver ses mains que de laver son cœur. C'est ce que le Seigneur dit aux pharisiens qui lui faisaient des reproches. Ah, laver son cœur. Alors maintenant, pour la sanctification, d'abord, je ne voudrais pas développer longtemps, prendre beaucoup de place, mais c'est le sujet. Il y a d'abord la sanctification fondamentale, foncière, initiale, sans laquelle il n'y en a pas d'autre. Dieu est saint, sa nature repousse tout mal. Il n'a pas besoin d'être sanctifié, il est saint par nature. La sainteté, c'est la séparation du mal. En Dieu, c'est l'absolu. C'est bien à sa nature. Pour nous, cela doit être le fruit d'une vigilance dans la marche et du rejet de ce qui est soulié en nous et autour de nous. La justice, c'est la condamnation du mal. La sainteté, c'est la séparation du mal, le rejet du mal, et la justice, c'est la condamnation, soit morale, soit judiciaire, du mal. Jamais le mal, aucun mal ne laisse Dieu indifférent. Aucun. La pensée folle qui traverse votre esprit, Dieu la connaît. Et Christ devait mourir pour cela. Rien ne nous fait mieux sentir dans quel abîme, sans fond, dans lequel l'homme est tombé que ces considérations-là. Impossible d'en sortir. Pas moyen. Sanctification fondamentale, initiale ou de départ. Comment est-elle obtenue? Voilà un enfant, un jeune homme, n'est pas converti, ou un homme, un adulte, un vieillard. Tout enfant qu'il est, eh bien, c'est un être qui est rempli de mal. Ah, c'est pas bien agréable à dire, mais c'est ainsi. C'est tellement vrai que le Seigneur est mort pour les petits-enfants, ils seront sauvés sans avoir rien fait. S'ils meurent avant l'âge de responsabilité, ils n'iront au ciel qu'en vertu du même sang de Christ. Alors, la sanctification fondamentale, elle n'est pas du tout par des pratiques. Elle n'est pas par l'enseignement. Nous disions cela ce matin ailleurs. La sanctification est par la mort. Du côté du Christ, sorti du sang et de l'eau. Le sang expie, l'eau purifie. Il n'y a pas de purification autre que par la mort. Impossible d'ôter la souillure de l'homme sans être l'homme. Il faut que l'homme soit ôté, entièrement. Ce n'est pas le côté de la culpabilité, c'est le côté de la souillure. Vous ne pouvez pas restaurer ce premier Adam, c'est impossible. Vous ne pouvez pas effacer le stigmate du péché de son front de pécheur. Impossible. Retenons cela, car de nos jours, on raconte toutes sortes d'histoires. Grâce à Dieu, je ne pense pas dans les assemblées. Mais ailleurs, on voudrait restaurer le premier Adam, on cherche à le restaurer. La sanctification de base, sans laquelle il n'y a pas de christianisme, n'est-ce pas? Elle est par la mort. C'est par la mort de Christ qu'un chrétien a été sanctifié. Il a été soustrait à son état de souillure par la mort. De même que par le sang, Dieu, à son égard, lui parle désormais de paix. Dieu l'a réconcilié avec lui-même. C'est l'autre côté de la question, ce n'est pas le nôtre. Voilà donc un chrétien véritable. Il a été sanctifié, remarquons bien, n'est-ce pas? Confirme cela de façon éclatante et permanente. Admirable. Allô, philosophe. Comme toutes leurs élucubrations paraissent dérisoires en présence de la clarté, comme celle d'un soleil de l'écriture. Voilà donc un homme, il est justifié par le sang de Christ. Il est sanctifié par l'eau qui a coulé du côté du Christ, par là. Il est sanctifié. Aux yeux de Dieu, cette horreur du péché est ôtée. Et puis, la colère de Dieu, à cause de la vertu du sang, est apaisée. Alors, remarquons bien ceci, n'est-ce pas ? Que ce chrétien, ce qui montre bien, confirme ce que disait tout à l'heure, d'une façon extraordinairement forte. Remarquons bien que ce chrétien, nous en sommes là, espérons la très grande majorité. Nous sommes en paix avec Dieu, et nous savons que quant à cette souillure indélébile, n'est-ce pas, une tâche, on parle de tâche originelle, et je ne peux pas parler de cela, mais enfin, cela pourrait dire rattaché. Mais un chrétien est un homme qui a la nature divine et puis qui a son vieil homme. Il est chrétien, il est justifié, il est sanctifié, il est mis à part et son vieil homme est inchangé en lui. Et le vieil homme, chez Paul, après des dizaines de vies d'une fidélité exemplaire, et probablement jamais égalé, son vieil homme était intégralement ce qu'il était avant qu'il fût converti. La vraie justification et la sanctification de base, ni l'autre dont je dirai un mot, ne changent en rien le vieil homme. Le premier Adam garde là son visage pervers. On n'en sera débarrassé que quand on quittera ce corps. Comme cela est admirable, n'est-ce pas ? beaucoup de chrétiens aujourd'hui, et quelquefois de vrais, et des chefs, laissent entendre qu'on peut restaurer ce premier Adam, plus ou moins, ou en partie. Mais ce n'est pas la vérité, ça. Ça, ce sont des enseignements de Satan. Satan donne des enseignements en général mélangés, et pas le mensonge pur, parce que beaucoup l'écouteraient moins bien, mais on écoute les mélanges, on reçoit les mélanges. Voilà donc justification, sanctification. Et il y a maintenant, et alors c'est ce qui nous rattache à notre sujet, il y a maintenant une sanctification pratique, qu'on a appelée quelquefois progressive, mais il ne faut pas que cela prête à équivoque. Un chrétien est entièrement sanctifié aux yeux de Dieu du jour où le sacrifice de Christ le couvre, et du jour donc où il a reçu Christ par la foi. Seulement voilà, il y a la vie de tous les jours. Ce chrétien et les chrétiens qui sont ici savent très bien qu'il ne se passe pas un jour sans qu'ils aient quelques manquements. Et là, c'est une souillure qui intervient. Quand les âmes sont mal enseignées, les voilà qui remettent tout en question et qui se disent « Non, mais je ne suis pas sauvé, je suis perdu. Je suis sauvé aujourd'hui, je suis perdu demain. » Et la vie serait un martyr sans fin. Mais Dieu est vrai. Mais Dieu est bon. Et il dit ce qui est vrai. Et il ne nous cache pas ce que nous sommes. Mais il dit aussi la vérité quant à ce qu'il a fait à l'égard de tout ce que nous sommes exactement. Et c'est admirable. La sanctification progressive. La sainteté sied à ta maison, ô Éternel. Il est saint, il est saint, il est saint. Et que de fois ne le voit-on pas. Et le séraphin le dit, mais nous le savons, nous pouvons le savoir aussi bien qu'un séraphin, là, n'est-ce pas, saint, saint, saint est l'Éternel des armées. Et nous pouvons le savoir mieux, parce qu'un séraphin n'a pas la nature divine, et que nous l'avons. Les chrétiens, les croyants seuls, et les chrétiens en particulier, sont reste des créatures, mais ils possèdent ce qui est au-dessus de la créature, les anges pas. C'est autre chose. Alors la sanctification pratique à laquelle ces passages nous convient, n'est-ce pas, consiste à marcher pratiquement dans la séparation du mal. On ne cherche pas à être séparé du mal pour devenir agréable à Dieu, pour avoir sa faveur et avoir le salut, mais parce qu'on l'a, parce qu'on est justifié, parce qu'on a là, on a été lavé dans le sang de Christ, on est tout net, comme dit le Seigneur en Jean 13, vous êtes net, il l'était par la foi, et avant même que le Seigneur fût mort, n'est-ce pas, il était net, vous n'avez besoin que de vous laver les pieds, c'est la sanctification pratique. Dans l'Ancien Testament, les sacrificateurs se lavaient les mains et les pieds. Ici, quand le chrétien ne peut les pieds, parce que la question des œuvres est réglée, et c'est la marche, c'est la marche. Alors voilà la question de la marche, la sainteté pratique dans la marche. Se séparer du mal, ce doit être l'exercice constant des chrétiens, qui sont tous des sacrificateurs. Et il n'y a pas de témoignage à la gloire du Seigneur sans cet exercice-là. Et même si un chrétien tombe, n'est-ce pas, eh bien, il faut prier pour lui et prier les uns pour les autres, pour qu'il en arrive à avoir la haine du mal, l'horreur du mal, ce qu'il a fait, ce qu'il est. Et c'est cela la sainteté pratique. D'ailleurs, nous avons d'autres ressources, parce que Dieu ne suppose pas que nous devions pécher a priori. En Jean 1 et 2, c'est supposé, en 2, mais ailleurs, nous trouvons que nous pouvons demander à Dieu de nous garder pour que nous ne péchions pas et donnera du secours au moment opportun. Mais c'est tout un sujet, j'ai déjà tenu trop de place. Nous nous occupons donc de la sanctification pratique. Le peuple avait laissé entrer dans la maison de Dieu des abominations, moralement et doctrinalement. À la fin, dans le temple qu'ils vont se mettre à rebâtir, n'est-ce pas, eh bien, ce sera une maison balayée et ornée. Comme le Seigneur dit, il aura été balayé et orné. mais il viendra un esprit sept fois plus méchant qu'auparavant. Ce qui caractérisait la maison du avant, c'était qu'on avait, on avait laissé entrer les idoles. Le peuple ne sera pas idolâtre, n'est-ce pas ? Ne sera pas idolâtre, mais l'antéchrist y viendra. Et ce sera alors le comble. Mais pour nous, pour l'Église de Dieu, pour une assemblée locale, pour les chrétiens individuellement aussi, pas de fidélité sans la condamnation de soi-même. Ce doit être un sentiment extrêmement vivant et profond en chacun de nous. Un chrétien n'est pas en bon état s'il entretient en lui des pensées favorables à l'égard de Dieu, même s'il est un bon serviteur. N'est-ce pas ? Du moment où nous sommes serviteurs et nous sommes, et le Seigneur nous aide, et si nous nous reposons complaisamment, avec complaisance, sur la manière dont le Seigneur nous aide, et même sur les joies qu'il nous donne, déjà nous sommes en mauvais état. Hein, c'est cela. Et le secret du bonheur, ô chers amis, il est là. Il est là. Le vrai bonheur. Le seul regret que l'on ait, c'est qu'il y ait des éclipses dans nos vies aux uns et aux autres. Si nous en étions là à être fidèles et vrais, et à proclamer par un comportement qui ne sera pas spectaculaire, mais qui sera profond, et qui sera marqué par les jugements, par un exercice de jugement de nous-mêmes constamment, eh bien, chers amis, combien de personnes autour de nous seraient conduites à réfléchir alors que notre marche mélangée dans ces principes où nous ménageons le moi pour lui faire une place à côté du Christ, les deux n'allant jamais ensemble, jamais. Et c'est vrai pour nous serviteurs, n'est-ce pas, en tout premier lieu. Si le service passe avant le Seigneur, dans le cœur d'un serviteur, il est déjà en chute. Et il a perdu cette sainteté qui réside dans le fait qu'on nous a dit tout à l'heure d'avoir un cœur pur, et le cœur pur dans les Écritures, c'est le cœur qui n'a que Dieu, qui n'a que Christ comme objet.
Pour que le Saint-Esprit défend la sainte et adorable personne du Seigneur Jésus, parfait modèle, et nous n'en avons point d'autre, ce que Dieu nous a donné afin que nous suivions ses traces par l'opération du Saint-Esprit en nous. Lorsque le Saint-Esprit défend cette adorable personne, il trouve que toute sa personne est désirable. Et le Saint-Esprit le dépeint depuis la tête jusqu'au pied. Tout est parfait. Quand le Saint-Esprit nous parle du résidu futur, restauré, ou en voie de l'être, bien la première chose que la description que fait le Saint-Esprit du résidu typifié dans la Tsunamite, la première mention que nous trouvons quant à cette description, ce sont les pieds. Pour le Seigneur, on commence par la tête, et jusqu'aux pieds, tout est parfait. Mais pour apprécier l'affection renouvelée dans le cœur du croyant, par où va-t-on commencer ? Par où le Saint-Esprit commence-t-il ? Non pas par la tête, par la connaissance, par l'intelligence, mais par la marche. Et je cite seulement ce verset du Cantique des Cantiques. Que tes pieds sont beaux dans ta chaussure, fille de prince. Et la première chose que l'Esprit de Dieu fait, c'est de considérer les pieds, c'est-à-dire la marche. Que tes pieds sont beaux. Son prophète Ésaïe, à l'égard des pieds du Seigneur, ce n'est pas seulement que tes pieds sont beaux, mais combien sont beaux les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles. Quelle marche que la sienne. Père, je t'ai glorifié sur la terre. Aucune fraude dans sa bouche. aucun péché en lui, entièrement séparé pour Dieu. Combien sont beaux les pieds de celui qui a été sur la terre, ce parfait modèle, contemplant à face découverte la gloire du Seigneur, c'est le seul moyen d'être transformé en son image.
Citation, nous avons de ce passage d'Ésaïe 52, dans Romains 10, combien sont beaux les pieds de celui qui vient sur les montagnes. Dans Romains 10, il est dit combien sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Depuis que le Seigneur Jésus est venu sur la terre, il y a alors des êtres qui s'est associé à lui-même, et alors il peut être rendu le même témoignage à eux-mêmes qu'à lui-même, ce qui ne pouvait pas être le cas avant que le Seigneur soit venu sur la terre. On nous permettra peut-être, à la suite de tout ce que nous avons entendu et qui est d'une telle importance, de citer simplement un ou deux passages des Écritures pour bien graver cette pensée de base, d'une part, concernant la sanctification de position qui est celle de tout croyant, et d'autre part, alors, ce que l'on vient d'appeler la sanctification pratique ou progressive, et qui doit être, chers amis, le chemin dans lequel nous avons à marcher, un chemin de sanctification pratique ou de séparation du mal pour Dieu. Nous aimerions citer deux ou trois passages qui parlent de cette sanctification opérée une fois pour toutes, qui est la part et pour toujours de tout croyant. Et ceci en pensant spécialement aux jeunes qui nous font la joie de nous accompagner dans ces journées de lecture de la parole. Le premier passage auquel nous pensons, et nous allons ouvrir nos Bibles ensemble, en tout cas les jeunes, le premier passage auquel nous pensons se trouve dans le livre des Actes. C'est l'apôtre Paul qui parle dans son apologie. Il parle au roi Agrippa et il dit ceci au chapitre 26 du livre des Actes, au verset 17e. Je t'envoie pour ouvrir leurs yeux, pour qu'ils se tournent des ténèbres à la lumière, et du pouvoir de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent la rémission des péchés et une part avec ceux qui sont sanctifiés par la foi en moi. Il ne fait pas de doute que d'après ce passage, les sanctifiés sont ceux qui ont cru au Seigneur Jésus, et ils savent qu'ils le sont une fois pour tous. C'est le premier passage. Le deuxième, dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 6e de la première épître aux Corinthiens, le verset 11e, dans les versets qui précèdent, il est parlé de l'état de péché dans lequel se trouve tout homme, et pour définir cet état de péché, l'Esprit de Dieu se sert vraisemblablement des formes de mal les plus immondes qui soient, et d'ajouter au verset 11, « Et quelques-uns de vous, vous étiez tels, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. » Il s'agit là, de nouveau, de cette sanctification faite une fois pour toutes. Du reste, elle est associée à la pensée de la justification qui, elle, alors, ne peut pas prêter à la moindre équivoque. Nous savons tous, quand nous entendons parler de justification, que cette œuvre a été faite une fois pour toutes. Et le troisième, peut-être le plus connu de tous, de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10e. Au chapitre 10e de l'Épître aux Hébreux, il nous est dit ceci, au verset 14e, Hébreux 10, 14, par une seule offrande, il a rendu parfaits à perpétuité ceux qui sont sanctifiés. Voilà un passage ajouté aux deux autres qui nous montre sans le moindre doute qu'il y a une sanctification de position, et c'est celle, nous le répétons, de tout croyant, de celui qui croit au Seigneur, et cette œuvre de notre sanctification a été opérée par le Seigneur Jésus lui-même. Un dernier mot en rapport plus direct avec notre passage et confirmant encore ce qui vient de nous être dit. Dans l'Évangile selon Jean chapitre 17, nous avons là également un passage d'une extrême importance. Au chapitre 17e, la prière sacerdotale du Seigneur. Que dit le Seigneur au verset 16e, Jean 17, 16. Tout d'abord, le Seigneur demande que ses disciples soient gardés du mal. Verset 16. Ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Ah, chers amis, il est inutile de souligner cette pensée de la suite, de la succession parfaitement spirituelle qui se trouve dans les différentes demandes exprimées par la prière de notre adorable Seigneur et Sauveur. Et chers amis, il importe que nous-mêmes, nous lisions de tels passages dans l'ordre où ils ont été consignés dans les Écritures. Il ne faut pas inverser l'ordre des différentes déclarations ou demandes du Seigneur Jésus. Tout d'abord, le Seigneur dit que ses disciples ne sont pas du monde, comme lui-même n'est pas du monde. Voilà, chers amis, cette mise à part, cette séparation de laquelle découle alors, pour nous, chaque jour, cette séparation pratique, constante, qui nécessite évidemment un exercice profond de notre conscience. Et alors, ainsi mis à part du monde, qui peut opérer une telle sanctification pratique, une telle mise à part constante, régulière du monde? Ah, le Seigneur s'adresse à Dieu le Père et peut lui dire « Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité ». Voilà, chers amis, c'est la parole que nous avons entre nos mains, c'est la parole vivante et permanente de Dieu qui est la vérité. C'est l'action de cette parole dans nos cœurs et dans nos consciences qui nous amène à marcher dans ce chemin de séparation pour Dieu et de sanctification pratique. Alors, et nous insistons sur ce point-là, alors vient la pensée du service. Mais seulement après, le Seigneur peut dire, comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Et il me semble qu'avec un tel passage, nous rejoignons celui de notre lecture de cet après-midi. Ne commençons pas par le service. Il est parlé d'abord garder du mal. Il est parlé d'abord qu'ils ne sont pas du monde. Il est parlé ensuite de la parole de Dieu qui agit pour nous garder dans un tel chemin de sanctification pratique. Et alors, dans un tel chemin, nous pouvons répondre à l'appel du Seigneur et partir pour accomplir le service pour lequel il nous envoie, mais seulement à ce moment-là. Il ne faut pas intervertir. Quelquefois, c'est un danger. C'est un danger, chers amis. Nous pourrons facilement être beaucoup préoccupés par la pensée du service, par la pensée d'une activité. On peut même devenir des hyperactifs en oubliant ces choses extrêmement importantes qui est précisément cette sanctification pratique, ce jugement profond de soi-même. Nous le disons en terminant, que le Seigneur nous garde en effet de ce que notre frère a appelé tout à l'heure, soit de ce comportement spectaculaire qui ne peut être, qui est peut-être qu'une affaire d'apparence. Et c'est ce que le prophète Agée dénonce en s'adressant ainsi au sujet de la loi au sacrificateur. Ça ne peut être qu'une affaire d'apparence, un comportement spectaculaire ou une activité fébrile. Beaucoup d'activités sans qu'il y ait cet exercice profond, ce jugement profond de soi-même. On commence par là et pas par autre chose. On commence par là. Et ensuite, dans un tel chemin, combien heureux l'on sera de répondre à l'appel du Seigneur et d'accomplir le service pour lequel il nous a appelés.
Dans Hébreux, il est dit la sainteté sans laquelle nul ne verra le Seigneur. C'est juste. Je voudrais rappeler une image qui a été souvent donnée. C'est que lorsqu'une personne est convertie, elle est arrachée au monde. Jusque-là, elle était dans la carrière du monde. Le Saint-Esprit l'a tiré de là. C'est peut-être un enfant dans sa famille, alors personne n'est converti dans la famille. Et les parents ont beau de se mettre en travers, Dieu a la priorité partout et toujours. Et voilà une âme qui est arrachée à la carrière du monde. C'est la sanctification de base. Ensuite, dans cette âme, Dieu continue un travail, en général, à moins que cette personne soit appelée à quitter la terre, ce qui n'est, à certains égards, pas le plus mauvais lot. Mais c'est l'affaire de Dieu, celle-là. Sinon, il y a un travail que Dieu poursuit. Et ne pensons pas que ce que nous faisons est plus important que ce que Dieu fait. Ce que nous faisons est beaucoup moins important que ce que Dieu fait en nous. Et je rappelle une parole connue certainement de plusieurs, ce que Dieu fait en nous est plus important que ce qu'il fait par nous. La plupart du temps, chez ceux qui partent et qui s'élancent, prennent leur élan pour des activités, ils croient tout à fait le contraire. Mais l'expérience prouvera si c'est Dieu qui a raison ou eux. C'est bien dommage qu'on risque de manquer sa carrière faute de précaution au départ. Cette sanctification de base est suivie d'une sanctification progressive qu'on pourrait résumer par le mot suivant. Dieu fait l'éducation de ses enfants et les sanctifie. Sans la sanctification de base, de départ, le fait d'être arraché à la carrière du monde, il n'y a pas de... Nul ne verra le Seigneur, c'est évident. C'est ce que cela veut dire. Mais voilà une pierre qui est arrachée, Dieu se met à la travailler, à la polir. Vous savez, quelqu'un qui est converti, s'il vient de quelqu'un, s'il a vécu dans des milieux plus ou moins louches jusque-là, il peut très bien être et remarquablement converti, mais il y a du travail à faire. Il y a un dépouillement à opérer, il y a beaucoup à ôter et il y a beaucoup à donner. C'est cela la sanctification. Hein? Toute notre vie, Dieu s'emploie à nous sanctifier. Et je voulais dire encore un mot à ce propos, c'est que nous sommes des créatures et nous restons des créatures. Nous avons la vie de Dieu, mais nous sommes des créatures. Et une créature a besoin d'un objet. Un chrétien est une créature, bien qu'il ait une nature divine, il a besoin d'un objet. Tous les hommes de ce monde, les gens de ce monde ont besoin d'un objet. Et chose remarquable, facile à observer, chacun est moralement transformé selon la nature de l'objet qu'il poursuit. Au fond, selon la nature de l'idole qu'il a dans le cœur. Un avare est transformé selon l'idole qu'est l'amour de l'or, de la fortune. Il a une transformation chez cet homme. Cet homme, un avare, ne ressemble pas à un mondain. Il ne ressemble pas à un homme dissolu. Non, c'est un autre genre, un autre caractère moral. Je ne dis pas que les autres vaillent mieux, mais c'est différent. Pour dire simplement ceci, qu'une créature n'est jamais indépendante. Dieu seul se suffit à lui-même. Il n'a pas besoin d'objets. Il se suffit à lui-même. L'autarcie, n'est-ce pas, un mot qui a été employé depuis fort longtemps, même dans la langue ancienne, l'autarcie caractérise seul Dieu, l'être incréé. Toutes les créatures sont des créatures dépendantes, chrétiens compris. Mais alors, un avare est modelé suivant l'idole qu'il a dans son cœur, un mondain, un superstitieux, tout ce que vous voulez, tout chacun est marqué par l'objet, l'idole ou les idoles qu'il a dans son cœur. Le chrétien sera transformé sans même qu'il s'en rende compte à l'image de Christ, comme on nous citait tout à l'heure, s'il s'occupe de Christ. Christ dans la gloire, le Saint-Esprit nous donne de contempler Christ dans la gloire. Ce sont des mots qui paraîtraient absolument insensés à la plupart des personnes qui portent le nom de chrétien, et même à des chrétiens véritables. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous tous, contemplant à face découverte la gloire du Seigneur, nous sommes transformés de gloire en gloire comme par le Seigneur en esprit. Sont-ce des mots ou sont-ce des réalités? Voilà la question. Ce sont des réalités plus tangibles que les choses que nous voyons, que nous touchons. La caractéristique de la période chrétienne, c'est que la vie chrétienne se développe sans que l'objet soit vu extérieurement parlant. Il est vu par l'opération du Saint-Esprit dans le cœur, dans l'âme du croyant. Et c'est une réalité absolument inexprimable. Elle est individuelle, elle est personnelle, elle est incommunicable. Chacun contemple le Seigneur pour lui-même. Chacun est transformé à l'image du Seigneur pour lui-même. Et outre cela, il y a la contemplation du Seigneur dans les Écritures, dans le Nouveau Testament. Le Seigneur est un pain que l'âme mange, l'âme du chrétien, et le chrétien est transformé à l'image du Seigneur. Il était saint, il était doux, il était débonnaire, il était humble, il était dévoué, et il n'y a en lui pas de trace d'égoïsme. Et ce n'est qu'en étant occupé du Seigneur dans notre cœur et notre conscience, pas dans notre tête, cela ne mène à rien, n'est-ce pas? Si ça reste dans la tête, dans notre conscience, que nous pouvons, à notre insu, être transformés à son âme. Vous avez bien vu, n'est-ce pas? Et vous avez entendu dire, peut-être l'a-t-on dit à votre sujet, que tel chrétien qui pendant des semaines a été gardé dans un exercice de prière, lecture de la parole, méditation de la parole, vous avez peut-être pensé en vous-même, tiens, quelqu'un, membre de votre famille, sans le lui dire, il fait des progrès. On voit disparaître des choses, on en voit apparaître d'autres, n'est-ce pas? Et c'est cela le progrès, pratiquement. Et ce n'est pas l'effet d'un règlement que vous lui rabâcherez tous les matins, mais pas du tout cela, non. C'est intérieur. Le progrès est intérieur. Le nouvel homme se développe. Il prend son accroissement, cantique que nous avons chanté tout à l'heure. Il prendrait tout son accroissement. L'obstacle à l'accroissement du nouvel homme, c'est l'activité du vieil homme. L'activité, c'est pas la présence du vieil homme. C'est son activité d'une manière ou d'une autre. Vous ne pouvez pas avoir des idoles, vous ne pouvez pas avoir Christ une idole. Pratiquement, ce n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Cette transformation se fait, voilà le progrès, seulement il arrive, et chacun de nous dans sa vie a donné sûrement au Seigneur au moins ce spectacle-là de haut et de bas. De haut et de bas, dans la sanctification pratique, une tranche de notre vie qui manifestait ainsi des progrès. Christ était précieux au cœur, il avait la première place et du mieux, des signes de progrès se manifestaient dans le comportement. Nous ne lisons pas le cœur, dans les cœurs, mais le Seigneur le lit et il en tient compte, n'est-ce pas, il le note. Mais extérieurement, il est impossible que Christ soit profondément aimé par un cœur sans que des effets soient manifestés au dehors. Cela, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Et c'est cela le témoignage. Le service en fait partie. Il n'y a pas de service fidèle, comme on nous l'a dit tout à l'heure, de service vrai, c'est-à-dire qui n'est comme source et comme objet que Christ, sans que le cœur laisse à Christ la première place. Nous avons beaucoup à apprendre, mais apprenons. Restons dans le chemin où l'on apprend. Que le Seigneur nous accorde de connaître ceci, qui est une source d'exercice, mais une source de joie intérieure, et aussi de force, et de discernement spirituel. Quand vous faites des progrès, si vous avez fait des progrès, vous dites aujourd'hui, oh, par exemple, comment se fait-il que il y a 2 ans, j'appréciais telle chose, je l'appréciais de telle manière, mais j'étais absolument insensé. Voilà un signe du progrès. Quand vous jugez vos propres jugements d'une période passée, vous marquez soit par plus de jeunesse, ou soit par plus de l'ancienneté. Ainsi, on se juge soi-même quand on apprend à mieux connaître le Seigneur. Le jugement de soi-même découle de source. Eh bien, soyons encouragés cela. Ces exercices, souvent humiliants et douloureux, ils sont tous et toujours payants.
Terminer cette première réunion parce que d'après le programme, je crois que nous arrivons au terme de cette réunion. Il y a le passage que notre frère Finet a cité, les derniers versets de la première épître aux Thessaloniciens. Or, le Dieu de 1 Thessaloniciens 5, verset 23. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Or, le Dieu de paix lui-même vous sanctifie entièrement, et que votre esprit et votre âme et votre corps tout entier soient conservés sans reproche en la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons là, pensons-nous, le vœu de l'apôtre, le vœu à l'égard de ses bien-aimés frères de Thessalonique, que le Dieu de paix les sanctifie entièrement, c'est-à-dire poursuive cette éducation, comme on vient d'entendre, cette formation, cette sanctification pratique en eux-mêmes, jusqu'à un plein résultat, un véritable achèvement, qui consiste en ceci, que il soit trouvé sans reproche en l'avenue de notre Seigneur Jésus-Christ, et alors des expressions semblables, sanctifié entièrement, sans reproche en l'avenue de notre Seigneur Jésus-Christ, font naître probablement dans tous nos cœurs, mais comment est-ce que cela est possible? Par nous-mêmes, par nos propres efforts, sans l'action de la parole et sans le secours de son esprit, c'est une chose impossible. D'où la suite du passage, celui qui vous appelle à cela, à un tel état de perfection pratique, celui qui vous appelle est fidèle, qui aussi le fera, la confiance de l'apôtre à l'égard des frères de Thessalonique, dont l'action de la parole du Dieu de paix était totale. Il était fidèle et il le ferait certainement.